Il est 8h. Belle journée à tous sur Europe 1. La suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre en ce dimanche 17 avril. Dans un instant, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit ce matin Sabrina Agresti-Roubache. Elle est conseillère régionale spéciale à la région Sud et c'est elle qui a ouvert le meeting d'Emmanuel Macron hier à Marseille. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité toujours marqués évidemment par la guerre en Ukraine. Lviv, Kiev, Lviv et Kharkiv ont encore subi les frappes russes. Volodymyr Zelensky menace de mettre fin aux négociations si les derniers soldats ukrainiens de la ville assiégée de Mariupol étaient éliminés par les Russes. À une semaine du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron était donc en meeting à Marseille. Hier, il a promis que son prochain mandat serait écologique ou ne serait pas. Marine Le Pen, elle, a continué à jouer la carte de la proximité en Eure-et-Loire. Elle veut diriger la France comme une mère de famille, selon ses mots. Et au milieu de ce duel, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec ses plus de 7 millions de voix, a bien l'intention de peser aux prochaines législatives. La présidente du groupe à l'Assemblée, Mathilde Panot, rêve d'un Premier ministre, la France insoumise. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
D'abord, bonjour à tous. Sabrina Agresti-Roubache, la vraie Marseillaise. Merci d'être avec nous. Vous êtes venue Merci. Spécialement pour nous de Marseille ce matin. Vous avez grandi dans les quartiers de Marseille populaire et vous avez prévenu dans votre livre... Je ne sors ni de l'ENA, ni de HEC, je suis autodidacte au franc-parler.
Au franc-parler, oui, autodidacte. J'ai travaillé toute ma vie. Enfin, j'ai un bac littéraire, j'ai fait un cursus dans la production. Donc, je suis productrice, puisque vous m'avez présentée comme une conseillère régionale, mais je suis surtout productrice. J'ai grandi dans l'une des cités les plus pauvres d'Europe, à Félix Piat, juste derrière le Vieux-Port, l'une des plus grandes cités en centre-ville. Et ce que je dis dans le livre, c'est on peut ne pas sortir de l'ENA, on peut ne pas avoir fait les grandes écoles, et être engagée et faire des tas de choses dans ce
Et être battante.
Hein battante,
Et ouais. Vous êtes une grande défenseure de Marseille, votre bien-aimée. Et vous avez organisé donc le meeting du Faro à Marseille. C'est vous qui avez chauffé, comme on dit, le meeting et les Marseillais. 90 minutes consacrées à l'écologie par votre ami, rien qu'à l'écologie. Vous avez été surprise ?
Non, je n'ai pas été surprise. Bon, j'ai surtout laissé ma voix, hein, donc vous m'excuserez pour la voix. Non, je n'ai pas été surprise parce que je pense que le président a entendu, au-delà des urnes, il a entendu le bruit de la rue. Je lui avais dit une fois, tu sais, je viens de recruter un petit assistant, Martin, 22 ans. Et la première question avant de me demander son salaire ou quoi que ce soit, c'est est-ce que tu as une poubelle de tri sélectif ? Donc c'est ça qu'il fallait entendre. Il faut entendre cette jeunesse qui a besoin qu'on s'occupe de leurs préoccupations. Leurs préoccupations, si c'est l'écologie, ça doit être la nôtre. Et les enfants nous éduquent. Les enfants nous éduquent.
Surtout à Marseille, il y a beaucoup à faire en matière d'écologie et d'environnement.
Mais la discrimination écologique, elle existe, puisque moi, enfant justement des quartiers de Marseille, les plages les plus polluées, celles où on ne pouvait pas aller se baigner, c'était les nôtres. Quand vous sortez de Marseille, vous allez dans les beaux quartiers, les plages étaient nickel.
Alors, il a dit le 24 avril, c'est un référendum pour ou contre l'écologie. Mais quand votre ami, Emmanuel, comme vous dites, se peint en vert, alors là, il a la conversion radicale. C'est plus écolo que moi, tu meurs. Mais c'est de la sincérité ou du calcul politique ?
Non, c'est de la sincérité. C'est de la sincérité puisque je vois sa capacité justement à avoir entendu les messages du pays. Et les messages de la jeunesse, il les a entendus. C'est pas, vous voyez, vous parlez de calcul politique, il fait pas de calcul politique. Quand il fait le plan du Marseille en grand, c'est pas un calcul politique. Parce qu'au départ, quand il le fait, il n'a pas d'amis en politique.
Il y a des électeurs à Marseille.
Non, il y a des électeurs, mais c'est pas un calcul politique. C'est pas là où c'est Mélenchon qui a fini devant. Donc non, le calcul politique, c'est pas ça. C'est une vision, c'est quelque chose où il veut nous emmener parce qu'il a entendu.
Alors hier, il a mouillé sa chemise devant nous tous pour tous les absorber. Les abstentionnistes, les insoumis, les indécis, peut-être tous les Français, les socialistes, les écolos. C'est suivez mon panache vert.
Non, c'est suivez la vision, le regard. Le regard maintenant, on attend quoi de lui ? Emmène-nous c'est ta vision, ton regard. Il a compris que de toute façon, il fallait emmener tout le monde. Vous savez, le fameux grand rassemblement, c'est ça, contre l'extrême droite. Parce que moi, là où j'ai, et vous voyez, j'ai un chapitre, vous l'avez lu, sur les électeurs du RN. Les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. On n'est pas ennemis entre Français. Mais l'idéologie de l'extrême droite, il faut la combattre sans relâche. Et il faut ramener tout le monde donc, autour de nous. Parce qu'eux ne sont ni sur l'écologie, ni sur le socialisme.
J'aurais donc pu ajouter les abstentionnistes, les écolos et les électeurs de Marine Le Pen. Il veut faire de la France, je le cite, la grande nation écologique du XXe siècle. Dimanche prochain, il va commencer, s'il est réélu, ce qu'il appelle la réinvention du pays. On l'écoute.
Je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai aucune envie de faire 5 ans de plus. Non, je ne veux pas les faire en plus. Je veux complètement refonder. Je veux que ce soit 5 années de renouvellement complet. Ce qui se joue le 24 avril, ce qui se jouera derrière, ne doit pas être une reconduction, une continuation, mais bien une réinvention, une nouvelle ambition.
Voilà, et le candidat Macron annonce déjà un Premier ministre vert, auprès de lui 2 ministres verts, pour la planification écologique. Alors, il s'occuperait des énergies renouvelables et du nucléaire, de l'oxygène, mais de l'hydrogène, de l'air,
absolument,
de l'eau, même de l'alimentation.
Mais évidemment, parce que regardez, les classes populaires sont les plus mal nourries en termes de les produits les plus bons marchés sont des produits remplis de conservateurs. Pourquoi est-ce que ça serait, vous savez, quand je parle de discrimination écologique, je parle aussi de l'alimentation. Je parle de ça. Les enfants qui mangent le plus mal, ce sont les enfants des classes populaires. Donc on doit, à un moment donné, se rendre compte que si on ne s'en occupe pas, ça va donner des catastrophes, mais des catastrophes humanitaires. Donc. Et je voulais dire quelque chose, vous parlez de l'hydrogène et du calcul politique, parce que je reviens sur ça, parce que ça m'intéresse. À la région, c'est un magnifique échelon pour travailler. Et hier, il a dit, par exemple, la région avec Renaud Muselier a fait la COP d'avance. Donc, non, l'écologie, ce n'est pas quelque chose qui doit être réservé à une élite.
Ce n'est pas une découverte récente.
Pas du tout. Tout le monde s'en occupe.
Alors, il dit aussi qu'il faut défendre les paysages. Il promet 140 millions d'arbres pour les forêts françaises, etc., etc. C'est-à-dire, une semaine après le premier tour, il écoute, il rafle les bonnes idées et c'est virage tout, enfin pour nous. Vous croyez à ces promesses, vous ?
Oui, moi, ce n'est pas des promesses, c'est une vision. Moi, je crois, moi, de toute façon, je vais vous dire, ceux qui croient les promesses, il n'y a que un que ça engage. Moi, non, ce n'est pas des promesses, c'est une vision. Il croit à une vision. Moi, je crois en tout cas à la vision qu'il a pour le pays, mais pour nous emmener pas là, à 2050. On est déjà beaucoup plus loin.
Déjà, en 2050. En plus, le candidat Macron, alors là, hier, il a cogné Marine Le Pen. Pourtant, ce n'est pas le diable. Elle veut être mère de famille. Maman, non, on l'écoute, non, mais... on l'écoute.
Ne sifflez pas l'extrême droite. Battez-la le 24 avril.
Il veut même organiser une fête de la musique après Jacques Lang, de la nature,
de la
nouvelle divinité, après que Jacques Lang ait lancé, lui, en juin, la fête de la musique. Pourquoi il est tout le temps dans la foule, vous qui le connaissez ? Il a besoin de ça, du contact, avec les risques que ça comporte.
C'est charnel, mais bien sûr. Mais c'est parce que déjà, Marseille est une ville charnelle. Marseille, nous, on aime les gens, on aime le contact et on aime la confrontation. Et lui, il est pareil. C'est pour ça que c'est sa ville de cœur. Il a le tempérament d'un Marseillais. Et hier, c'était impensable de lui faire éviter ce bain de foule. Et à un moment donné... Il y a des tempéraments. C'est son tempérament. Ouais. Et si vous parliez de Marine Le Pen qui veut être la mère, on n'a pas besoin d'une maman. Les Français n'ont pas besoin d'une daronne, comme on dirait chez nous. On a besoin de quelqu'un qui nous emmène.
On n'a pas besoin d'un grand frère ou d'un père. Il y a 2 exemples dans votre livre qui m'ont frappé, ou même 3. Vous dites, si on n'est pas d'accord avec les lois, la culture, les libertés, les traditions françaises, bon, on n'a rien à faire en France.
Il faut trouver un autre pays qui nous correspond mieux. Moi, j'ai écrit ce livre, moi, la France, je la kiffe, c'est quoi ? Je pense qu'on vit dans le plus beau pays du monde, qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et qu'à un moment donné, ce qui fait le socle de la nation, moi en tout cas de mon pays, c'est ça, c'est cette fameuse laïcité, liberté qui permet à chacun d'être soi-même, mais ça, tout en respectant...
Vous auriez pu le dire en arabe à votre grand-mère.
J'ai trop mal à la gorge pour le dire, j'arriverai pas à le formuler, mais j'aurais pu... Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, quand il y a des choses graves qui arrivaient, elle disait « Merlich, Merlich », ça veut dire « t'inquiète pas, t'en fais pas, c'est pas grave ».
Et vous ajoutez, pour enfoncer le clou, « j'en veux à ceux qui se plaignent toute la journée », mais qui ne font rien pour que ça change.
Ben oui, à un moment donné, bon, moi je veux bien que tout le monde se plaigne, et je le dis, il suffit d'avoir voyagé pour se rendre compte dans le pays dans lequel on vit. J'ai vécu pratiquement 5 ans à Casablanca. Quand je suis revenue, j'aurais eu envie de faire comme le pape, vous savez, d'embrasser le sol. Parce que je suis partie suite à Le Pen au second tour en 2002. Ouais. C'est le choc. Le choc de Le Pen au second
D'accord,
tour.
Mais il est là aussi en 2002, vous n'êtes pas partie.
Mais non, là maintenant je reste et je me bats. Oui. Pareil. J'étais plus jeune.
Vous écrivez que l'islamisme est la mort de l'islam.
Oui, oui, l'islamisme, la mort de l'islam, parce que l'islam dans lequel moi j'ai grandi, c'est ça. C'est l'islam de ma grand-mère, c'est l'islam de paix, c'est l'islam d'amour, c'est l'islam intelligent, c'est l'islam du savoir. L'islamisme, c'est quoi? C'est l'obscurité. Et vous savez, la dernière porte qui reste ouverte, c'est toujours celle de l'extrême. De oui. l'extrême
Mais si
radical.
Le vrai islam dans la République, ce n'était pas la mort de l'islamisme.
Non, c'est oui, exactement. À un moment donné, il faut, moi, de toute façon, je l'ai écrit dans le livre et je l'assume complètement, il faut un cadre. C'est-à-dire, je ne dis pas, je l'ai écrit comme ça, ce n'est pas un islam de France, c'est un islam en France. Donc, à un moment donné, on vit dans un pays. Moi, vous savez, quand je suis allée vivre à Casablanca, je me suis adaptée aux règles. Je vais en Corée, je travaille beaucoup avec la Corée du Sud, je m'adapte aux règles, je fais comme eux. Donc, à un moment donné, on ne peut pas, et vous savez, à force d'avoir accepté l'inacceptable, ça nous a emmenés là où on en est.
Alors, vous dites, l'islamisme devient le réceptacle de tous les détrinqués, de tous les gens mal dans leur peau. Mais seulement, il y a le problème du voile. Vous dites, le voile est devenu plus qu'un phénomène de société, un véritable geste politique qui doit être traité comme tel, l'affirmation forte d'une identité, la marque d'un communautarisme qui s'étend à Marseille ou en France chaque jour un peu plus.
Absolument, absolument, à une différence près, puisque je sais où est-ce qu'on va en revenir. Vous l'avez, merci d'avoir lu ce passage. Dans la mesure où on a des règles, vous savez, là, moi je suis pour le respect absolu de nos règles dans la laïcité, dans les bâtiments publics, à l'école, au collège, au lycée, pas de voile. Dans l'espace public, chacun fait ce qu'il veut. On ne va pas interdire les kippas, les croix, les gens qui s'habillent un peu plus serrés, un peu plus dénudés. Enfin, chacun fait ce qu'il a envie. Et je dis même une chose, et c'est la suite du passage, c'est la pudeur dans la religion. Voilà ce que ma grand-mère m'a appris. La religion, c'est à la maison. Quand on commence à affirmer par la religion une identité, là, on rentre dans le communautarisme le pire.
Ouais. Et sinon, on montre le respect de l'autre.
Absolument. Hein? La pudeur, c'est le respect de l'autre.
On parle comme votre grand-mère ce matin. Ouais. Vous dites, vous voulez décloisonner le monde, etc. Vous voyez qu'on n'y arrive pas toujours, parce que votre ami, il a des échecs aussi. Est-ce que vous lui dites ce qu'il faut corriger?
Moi, en tout cas, la relation que j'ai avec lui, justement, elle n'est pas condescendante. Moi, quand je pense quelque chose, que ce soit à lui ou à quelqu'un d'autre, je l'ai toujours dit. Mais toujours dans l'intérêt général.
Qu'est-ce qu'il faut corriger?
Ben, qu'est-ce qu'il faut corriger? À mon avis, ben, il a fallu quand même 5 ans pour faire. Vous savez, vous le voyez, il a eu le mandat le plus empêché de la 5e. On ne pouvait pas imaginer honnêtement.
Alors?
Et alors, écoute. Voilà, maintenant, il y a des gens, tout le monde est là pour le soutenir et il le sait. Vous voyez les...
Qu'il écoute
la rue, qu'il écoute les gens. C'est les gens qui ont envie de le parler, mais qui ont envie de prendre un morceau de lui.
Ouais, un morceau de lui, en plus. Lui, oui. Vous connaissez le couple et Emmanuel Macron depuis, d'après ce que
2016.
J'ai lu, 2016, c'est-à-dire à l'époque où il pesait 7%. Votre amie, c'est surtout Brigitte Macron. Vous dites, je n'oublierai jamais d'où elle vient, et qui elle est. Et d'autre part, je ne lui demande jamais rien. Elle vous donne un conseil. Quel conseil?
Dis toujours les choses. Dis-lui toujours la vérité.
À lui ou à tout?
À mon mari, à lui, à tout le monde.
Et vous dites, c'est une femme d'engagement.
D'engagement est remarquable.
Et vous aimez les gens d'audace et d'engagement.
Absolument.
Le mot qui revient le plus fréquemment dans votre livre, vous savez ce que c'est?
Non.
Hein? Je fonce, sans peur. Je fonce.
Ouais, à Marseille, on craint des gains, non, mais parce que...
En quoi?
On craint des gains. Des gains en provençal, des gains, ça veut dire personne. Donc, c'est des gains, c'est... Alors moi, je l'ai écrit dans le livre, j'ai une culture provençalo-musulmane, parce que ma mère est née à Salon de Provence et elle parle le patois, mais comme elle parle parfaitement l'arabe, et comme elle est... voilà, je veux dire, ça, c'est Marseille. C'est-à-dire que Marseille, on a la culture de l'autre. Comprenez qu'en Provence, on a la culture de l'autre. C'est ça. Et c'est pour ça que Marseille, ça lui ressemble.
Vous siégez dans le comité de surveillance, d'après ce que j'ai eu,
Le conseil de surveillance
de Marseille, dont les voyages concernent beaucoup les Algériens. Tous les Algériens ?
La ligne Marseille-Alger, 90% du trafic arrêté. À un moment donné, il va falloir se poser aussi la question de comment faire pour reprendre.
En tout cas, le livre et tout votre comportement, c'est un hymne à Marseille, ville de la Méditerranée, belle, accueillante, bénie des dieux, comme vous dites. Et vous n'oubliez pas les crimes, les drogues, etc. Là. Le laboratoire de la France future. Vous parlez comme lui. En tout cas, et en plus, vous écrivez que vous êtes timide. Elle est bien bonne, ça.
C'est ce qu'on appelle les contradictions, c'est-à-dire on pense qu'on est, mais c'est un travail, c'est-à-dire d'essayer d'aller dire fort ce que vous pensez, mais toujours en respectant.
C'est-à-dire vous êtes tout, vous
pas
êtes
de les hurler, ouais. Pas de les hurler.
Et vous êtes, dire. Ouais, vous êtes en même temps que votre ami.
Je suis en même temps.
Vous, Marseille et la France, comme vous dites, vous les kiffez grave. Bonne journée.
Et le président de la République aussi.
Bonne journée.
Merci Sabrina. Merci.
Bientôt il va parler arabe lui aussi.
Mais je vais lui apprendre des mots.
Et merci à vous Jean-Pierre. Et vous retiendrez l'expression « ne craint de gain », c'est ça ?
Des gains,
pardon. Je précise que ce soir dans Repères, vous recevrez des représentants éminents des trois religions monothéistes. Jean-Pierre, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le président de la Fédération protestante de France, le grand rabbin de France et le prêtre du diocèse de Versailles. Exactement. Ouais. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche. En bref, avec Elisa Lukavski.
Une situation inhumaine. C'est comme ça que le président Zelensky a décrit la situation à Mariupol. Il demande aux partenaires de l'Ukraine de fournir toutes les armes lourdes nécessaires immédiatement. Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky avait menacé d'arrêter les négociations de paix avec Moscou si les derniers soldats ukrainiens à Mariupol étaient éliminés. Dimanche de Pâques, temps fort pour les catholiques. Le pape François célèbre ce dimanche la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre au Vatican. Une cérémonie qui sera suivie de la bénédiction Urbi et Orbi devant la place. Ça sera à suivre dès midi en direct sur CNews. La Corée du Nord teste un nouveau système d'armement pour améliorer l'efficacité des armes nucléaires tactiques. Le pays a procédé à un tir d'essai auquel le président Kim Jong-un a assisté. L'agence de presse KCNA a ajouté que le test avait été une réussite.
Merci Elisa. Votre matinale week-end continue dans un instant avec Face à Guillaume Bigot. Ce sera ce matin Frédéric Durand. Au menu, bien sûr, le duel à distance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à 3 jours de leur débat et à 1 semaine du second tour. L'un promet un mandat sous le signe de l'écologie. L'autre assure qu'elle dirigera la France en mère de famille. A tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
Il est 8h21 exactement. Merci d'être toujours avec nous dans la matinale week-end avec Face à Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Et ce matin, face à vous Guillaume, Frédéric Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique. Alors, les remakes ne sont visiblement pas du goût de tous les Français. Ce second tour dimanche prochain entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, comme en 2017, est un non-choix pour certains qui l'ont manifesté dans plusieurs rassemblements à Paris, en région. Quelques milliers de personnes qui ont dit non à l'extrême droite sans pour autant soutenir le président candidat. Ces cortèges traduisent un sentiment plus généralisé qui finalement renvoie un peu dos à dos les deux prétendants à l'Élysée. On en parle juste après ce reportage de Mickaël Dos Santos et Geoffrey Defebvre.
C'est la peine et Macron !
Voter pour ne pas choisir. Malgré le résultat du scrutin, beaucoup de manifestants ont montré leur opposition contre l'affiche du second tour de la présidentielle. Partout dans le pays, le message du Nini a été vu dans les rues de l'Hexagone. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, certains Français n'y voient pas clair.
On me retrouvait à choisir entre le néolibéralisme que je combats tous les jours dans la rue, dans les manifestations, et l'extrême droite. Franchement, je ne sais même pas comment on en est arrivé à là.
On n'est pas d'accord avec ça. Ni pour l'un ni pour l'autre, peut-être qu'on va voter pour un d'eux pour éviter le pire.
Oui, je vais voter au second tour et je ne sais pas encore quoi faire. Voilà, parce que je suis comme ça.
À Marseille, où se tenait le meeting du président de la République, la décision finale a également animé les débats.
Ni Marine, ni Macron.
D'accord, bah, très bien, moi ni Marine, ni Macron.
Se décider pour l'un des deux candidats résulte mission impossible pour certains.
Enfin, que c'est ni Macron ni Le Pen et que cette mascarade démocratique, on va se battre contre en fait. On a à choisir entre la peste et le choléra.
Moi, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse, ne correspondent à mon projet de vie.
À Nantes, des échauffourées ont éclaté entre policiers et manifestants. Au total, environ 22 000 Français sont descendus ce samedi dans les rues de l'Hexagone.
Guillaume Bigot, il faut reconnaître 22 000 personnes. Bon, ça fait très très peu de monde dans les rues, mais on a le sentiment que ça traduit quand même ce que pensent beaucoup de Français, cette indécision et ce rejet finalement de deux candidatures. Est-ce que le gagnant sera celui qui suscitera le moins de rejet ?
Vous avez parfaitement raison, Isabelle. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension de dépit, de retrouver un débat qui n'était pas le débat attendu, souhaité probablement d'ailleurs par une majorité de nos concitoyens. Et il y a le carnaval, enfin, ce que Lionel Jospin, qui de notoriété publique a été très à gauche et surtout un homme d'une très grande intégrité intellectuelle, appelait déjà du temps du père de Marine Le Pen le carnaval de l'antifascisme. Et donc, si vous voulez, en 2002, il faut bien avoir ça en tête, il y avait plus d'un million de personnes dans les rues. Là, c'est en tout 22-25 000 personnes. Voilà. Pour un autre point de repère aussi, à Paris, 9 000 personnes. La manifestation pour les Traoré, c'est 20 000 personnes. Donc ça vous donne vraiment... Enfin, on a la démonstration absolument chimiquement pure que le carnaval de l'antifascisme a fait pchit. Et donc, heureusement, il y a quand même une lucidité démocratique de nos concitoyens, même ceux qui sont déçus par le deuxième tour. Et je pense qu'ils sont très nombreux à être déçus par le second tour. Et même ceux qui sont d'ailleurs déçus parce que soit c'était encore les petits candidats pour lesquels ils avaient voté, soit ils n'avaient pas voté, soit ils avaient encore voté pour Jean-Luc Mélenchon et donc ils ne s'y retrouvent pas au second tour. Ça, on peut comprendre leur dépit. Mais même ceux-là n'ont pas adhéré à une espèce de grande mascarade.
Frédéric Durand, on est très loin quand même de ce barrage républicain qu'on a pu connaître précédemment.
Oh, mais ça, c'est certain. Vous êtes allé chercher Lionel Jospin à la rescousse pour expliquer que tout ça ne serait qu'une mascarade. Moi, je pense au contraire qu'il y a des gens qui ont réellement peur, à juste titre ou non, mais qui ont réellement peur d'une accession au pouvoir de Marine Le Pen. Je le disais hier même sur ce plateau, pour des questions d'indépendance de la justice, de la liberté de la presse, etc. Et je le disais aussi, même si avec Marine Le Pen, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'on sera en dictature, je pense qu'on pourrait ne plus être tout à fait en démocratie. Et on le voit dans les pays où les nationalistes ont pris le pouvoir. Donc qu'il y ait une peur, ça se comprend tout à fait. Qu'elle soit plus ce qu'elle a été effectivement il y a... Moi, je me souviens évidemment de 2002, où c'était extrêmement massif, parce que d'abord c'était une surprise. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout une surprise. Ça fait 2 ans qu'on nous dit que le second tour sera Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. On a fait le tour du monde et on est arrivé exactement au même endroit. C'est-à-dire que malgré les sondages qui ont bougé dans tous les sens, à la fin, on se retrouve avec l'affiche qu'on nous avait promise. Cependant, dire je suis contre l'affiche du second tour, c'est un peu être contre le fait qu'il fasse mauvais temps. Enfin, je ne vois pas très bien la logique qui préside à ce genre de manifestation.
C'est faire abstraction du résultat du vote des Français.
Règles de la démocratie. Le fait est là. Donc on ne peut pas dire je suis contre cette affiche du second tour. On peut dire j'en suis déçu. Et effectivement, moi, ce qui me gêne, c'est que ça réduit le débat à peu de choses. Parce que effectivement, si on est juste dans fascisme, antifascisme, alors tout le reste passe à la trappe. Et ça, effectivement, c'est dommageable pour le débat public. Et à la fois, je comprends que certains en aient totalement marre d'être dans le non-choix permanent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a eu 5 ans de Macron, qui vont pour certains être obligés de voter Macron alors qu'ils ne sont pas d'accord avec ses mesures économiques, sociales, etc., mais qui vont le faire juste au prétexte de ce que j'appelais la République des Castors, c'est-à-dire faire un barrage à tout prix à l'extrême droite. Donc il y a une vraie lassitude, et je dirais que si ça marche encore cette fois, ce sera la dernière.
Mais si vous voulez, le problème c'est le fond, parce que encore une fois, je répète, on peut être tout à fait déçu par ce choix. Et il y a beaucoup de et puis il faut jamais oublier que il y a surtout des abstentionnistes en France. C'est de très loin le premier parti. Donc manifestement l'offre politique ne correspond pas nécessairement aux attentes de la majorité de nos concitoyens. Ça, il faut l'entendre. Donc qu'il y ait un mécontentement sur ce choix limité. Bon après c'est Frédéric Durand a raison de rappeler que ce sont les règles de la démocratie. C'est un fait et même un droit. Mais là où ça devient un peu risible, c'est que parler d'indépendance, par exemple, de la presse. En fait, de quoi s'agit-il ? Madame Le Pen a dit « Je ne veux pas qu'il y ait des journalistes de Petit Quotidien ». Donc si vous snobez Petit Quotidien, vous êtes donc vous représentez une menace pour la liberté de la presse. Après 5 ans, où il y a eu quand même une volonté de mettre au pas de manière très très claire les médias, où les médias sont largement d'ailleurs achetés par des subventions, où il y a eu un bras de fer terrible.
Et vous bien dites sûr. En direct à la télé, donc tout va bien. C'est la preuve.
Mais ici, ce sont des faits.
C'est la preuve que vous êtes totalement libre de vos propos.
Ah, vous savez, ici, il y a eu une volonté de menacer la chaîne à plusieurs reprises. Donc, on ne va pas en faire état ici parce que ce n'est pas l'objet. Mais si vous voulez, on peut en parler absolument parce qu'il y a eu des menaces, effectivement, et qu'il y a de rares médias qui apportent une voix qu'on dit d'extrême droite alors qu'elle est simplement équilibrée et que des gens comme vous qui n'êtes pas d'accord et des gens comme moi qui ne sont pas d'accord non plus avec l'extrême droite mais qui comprennent la nécessité d'un débat démocratique, on peut se rencontrer, on peut parler librement. Ailleurs, c'est la mise en scène de l'objectivité alors qu'il y a un matraquage matin, midi, soir.
Et d'un mot avant le rappel de titre, est-ce que ça laisse présager de 5 années très difficiles, quel que soit?
Ah mais quelle que soit effectivement l'issue, dans la mesure où il n'y a pas de choix, le problème c'est ensuite la légitimité à gouverner. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette position, alors Macron l'emportera peut-être, enfin, si on en croit les sondages aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passera, mais est-ce que pour autant il a gagné la légitimité? C'est beaucoup plus difficile, d'autant que le score sera, ça c'est à peu près certain aujourd'hui, pas du tout le score de 2017. Donc il y a un vrai problème derrière de légitimité. Et je dirais que si on demande aux gens de voter pour soi, même si on n'est pas d'accord, mais pour faire barrage à l'extrême droite, alors il faudra accepter que demain dans les rues, on n'éborgne pas, on n'arrache pas les mains des gens qui viendront manifester. Parce qu'ils auront... Et là, il y a un vrai enjeu aussi démocratique.
Mais où est le danger pour la démocratie? C'est la question. Parce que par exemple, l'idée de rendre le pouvoir au peuple, d'organiser des RIC, des référendums, etc., ce serait une menace pour la démocratie. Alors... C'est ça qui est quand même spectaculaire. De la même façon, ce serait une menace pour les libertés publiques. Enfin bref, tout ça n'est pas bien sérieux. Ce qui est vrai, c'est que le mécanisme de construction européenne, toujours plus loin, crée des effets de cliquet, de sorte que déjà les Français n'ont plus tellement le choix sur la totalité des sujets, notamment de politique macroéconomique, qui sont imposés de manière non démocratique. Et si on continue cette construction européenne, effectivement, ce sera un effet de cliquet sans retour en arrière. On peut être d'accord ou pas avec Marine Le Pen, par exemple, ou avec tel ou tel candidat. S'il y avait Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, moi, sans hésitation, j'aurais voté pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne n'avancez pas la construction européenne d'un pas. Et ça veut dire que vous pouvez changer Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez changer Marine Le Pen, mais vous ne pouvez plus tellement changer Emmanuel Macron parce qu'il va enclencher des mécanismes qui seront irréversibles pour la République.
On va revenir sur ce qui s'est passé pour les deux candidats hier, l'un à Marseille et l'autre en Eure-et-Loire. D'abord, le rappel des titres avec vous, Elisa Lukavski.
La CFDT, la CGT s'engagent contre Marine Le Pen dans une tribune publiée chez nos confrères du Journal du Dimanche. Laurent Berger et Philippe Martinez rappellent que le projet politique du Rassemblement National est un danger pour les travailleurs. Ils disent vouloir éviter, je cite, un scénario catastrophe. La baisse des contaminations au Covid-19 se poursuit. Commencée ces derniers jours, cette diminution s'est confirmée hier. Santé publique France a enregistré 111 583 cas en 24 heures, 14 000 de moins que la veille. En revanche, le nombre de patients hospitalisés a légèrement augmenté, 885 nouvelles admissions en une semaine. Le foot et le derby du Nord avec la victoire de Lens sur la pelouse de Lille, succès de 1 grâce à des buts de Frankowski et de Kalimuendo. Les Sang et Or doublent leur adversaire du soir au classement et prennent la 7e place.
Merci beaucoup Elisa. On est dans une dernière ligne droite électorale, mais on assiste parfois à des virages, comme par exemple celui d'Emmanuel Macron, qui a braqué le volant vers l'écologie hier, alors qu'il était en meeting à Marseille. Loïc Signor, vous êtes avec Charles Baget depuis Marseille. Vous avez suivi très attentivement, évidemment, ce meeting. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Bah vous parlez de virage, le virage vert d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on a retenu évidemment nous aussi à l'issue de ce meeting hier. Mais pour lui, pas question de parler de virage. Il a toujours mené une politique écologique, la fin de la mine d'or en Guyane, la fin de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'arrêt de la construction d'un centre commercial géant en région parisienne. Et pourtant, le dialogue est impossible avec les vrais écologistes, les électeurs écologistes et notamment la jeunesse. Et c'est cette jeunesse notamment qu'il a visée hier. Emmanuel Macron, c'était à s'y méprendre le discours de Jean-Luc Mélenchon. Certains ironisaient hier en disant que c'était le dernier hologramme de Jean-Luc Mélenchon qui avait pris les traits d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut bien dire que dans le discours du président candidat, il y avait beaucoup de mesures et même dans les mots reprises au programme de Jean-Luc Mélenchon. D'abord le nom, bâtir un avenir en commun, a dit hier Emmanuel Macron. C'est exactement le nom du projet de Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour où il est arrivé troisième. Il parle parle aussi d'un Premier ministre ou d'une Première ministre chargée de la planification écologique. Là aussi, c'est un terme utilisé à maintes reprises par le leader de la France insoumise. Emmanuel Macron a utilisé de grosses ficelles, ne s'en est à peine caché hier pour séduire cet électorat mélenchoniste, jeune, les électeurs aussi de Yannick Jadot, de Fabien Roussel, d'Anne Hidalgo, pour essayer d'agrandir l'écart face à Marine Le Pen. C'est vraiment l'objectif des équipes du président sortant, avoir un score le plus large possible face à la candidate du Rassemblement National. Et cela passe évidemment, on l'a vu pendant toute une semaine, par des déplacements dans les terres de Jean-Luc Mélenchon, là où il arrive en tête. C'était le cas au Havre, par exemple, chez son ancien Premier ministre. Mais il est toujours difficile pour Emmanuel Macron, avec son projet pro-nucléaire, d'aller convaincre ces manifestants que l'on a vus hier à Marseille, à Paris, un peu tout dans toute la France, qui au mieux vont s'abstenir, au pire peuvent encore voter Marine Le Pen, et l'écart serait très serré entre les deux candidats.
Donc vous dites qu'il n'a pas vraiment convaincu, Loïc, brièvement ?
Il n'a pas forcément convaincu quand on voit la réaction effectivement des gens qu'il visait, Emmanuel Macron, c'est-à-dire les électeurs de gauche qui ne s'y trompent pas. Comment faire croire à des électeurs de gauche que l'on va faire pendant 5 ans ce que l'on n'a pas fait dans un précédent quinquennat ? Il faut changer de paradigme, a dit Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois, là aussi, qu'il dit qu'il faut se réinventer. Lui, le premier, il l'avait dit après les Gilets jaunes, il l'a dit au moment de l'épidémie de Covid-19. Cette fois-ci, coup de barre à gauche, coup de barre écologiste. Il va falloir pour Emmanuel Macron trouver à la fois les solutions, mais également la main-d'œuvre. Et le vivier n'est pas forcément le plus rempli du côté de La République En Marche. Preuve en est pour terminer. Hier, il parle très longtemps aux électeurs de gauche, mais juste avant, il a un déjeuner avec ses derniers alliés de la région Sud, Renaud Muselier, Hubert Falco, Martine Vassal, je vous donne en mille. Ils viennent tous des rangs de la droite et des Républicains. C'est les difficiles. En même temps d'Emmanuel Macron, après 5 ans d'exercice du pouvoir, il va devoir effectivement se réinventer, mais surtout aller trouver une main-d'œuvre qui lui manque terriblement pour convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de gauche plus globalement.
Merci beaucoup, Loïc, en direct de Marseille avec Charles Baget. Alors justement, Guillaume Migaud, est-ce qu'il ne risque pas de déboussoler les électeurs de droite ?
Si, c'est sûr, mais d'abord un petit préambule et on en revient à la question, à mon avis, très importante de l'objectivité de la presse, puisque finalement, la presse est prise dans... Je dirais la psychologie, ce que j'appelle le magnétophone social de la bourgeoisie, c'est-à-dire l'opinion des notables, l'opinion, on l'a vu tout à l'heure, des syndicats, l'opinion du MEDEF, etc. Bon. Et donc là, ce qui est vraiment très intéressant dans ce meeting, c'est que le cadre était sublimissime, le soleil était très beau.
Le parc du Pharo qui domine le Vieux-Port.
Vraiment, là, on ne peut pas faire mieux. Et grosso modo, ça devait être tout de même une démonstration de force. Or là, il y a à peine 2500 personnes. Déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est qu'il y a des débriefings, parce que, bon, voilà, il y a ce que les journalistes disent, et c'est des chaînes concurrentes, on ne va pas les citer. Mais grosso modo, c'est très intéressant d'aller regarder les podcasts, parce que les journalistes vident un peu leur sac dans les podcasts qui sont moins écoutés, qui sont plus libres de parole. Et là, on apprend des tas de choses intéressantes. On apprend qu'un sinistre personnage a hurlé en traitant tous les électeurs de Marine Le Pen de racistes. On a avant le meeting, donc c'était cautionné par l'organisation, scandaleux, personne n'en parle. Après, on apprend qu'il y avait un bain de foule, en plus il y avait très peu de gens, 2500 personnes, mais qu'il y a un handicapé qui a été jeté au sol par le service d'ordre. Aucune image, pas de son, pas d'image. Bon, tout va bien, on comprend bien que le Parti du Bien ne peut pas tolérer le moindre écart, c'est-à-dire ce qui est effectivement mis en boucle et tourné pour écraser Marine Le Pen, ça c'est silence, motus et bouche cousue. Mais revenons au fond maintenant. Évidemment, il y a le côté... Bon, le soleil vert, le côté, si vous voulez, le rayon vert de l'illumination, tel Claudel derrière un pilier à Notre-Dame, il y a d'un seul coup une illumination. Le problème de cette illumination soudaine pour le vert, c'est que ça vient après la démission fracassante de Nicolas Hulot, qui avait justement parlé
en 2018
de problèmes de paradigme. Deuxièmement, ça vient après, encore mieux, la Convention citoyenne pour le climat. Et là, c'est très savoureux, parce que l'idée de M. Macron, c'est surtout de nous vendre une démocratie Tupperware avec des petits groupes de citoyens tirés au sort, qui vont phosphorer, qui vont carburer, etc. Et voilà. Et quand vous regardez, j'invite tout le monde à le faire, on n'a pas le temps là de rentrer dans les détails, mais grosso modo, la déception massive de ces citoyens qui disent eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas été choisis sur leur appartenance politique, hein, c'est une sorte de panel, à quel point ils ont été rouler dans la farine, c'est l'expression qu'ils utilisent. Donc effectivement, il est vrai que plus c'est gros, plus ça passe, on le sait, en propagande politique.
De mon, vous en prie. Parce que vous dites un peu une chose et son contraire. C'est-à-dire que
Ben, si les choses étaient préparées à ce point, normalement, ceux qui sont sortis
de la COP... J'ai pas dit que c'était préparé.
Ceux qui... Ben si, vous dites Macron...
Je suis mal exprimé.
Vous dites que Macron, justement, prépare tout, que ceux qui ont sorti, sont sortis de cette convention citoyenne auraient dû dire « c'était merveilleux, on est très contents ». Donc, simplement sur le premier point que vous évoquez...
Ah, mais il leur a dit à l'avance « tout ce que vous direz sera appliqué ».
Oui. Non, mais ça...
Et à la fin, 10% à peine.
Ça, je vous concède complètement...
C'est une arnaque, et l'arnaque est programmée.
Non, mais ça, je vous concède complètement qu'il n'est pas du tout allé au bout, et je ne suis pas là pour défendre Macron, mais je dis qu'on est... vous vous présentez un peu comme le journaliste qui, le seul, serait capable de dire ce qui se passe mal, etc., parce que tout le reste de la presse...
Non, je voulais relever ce point. Non, j'ai parlé de confrères qui parlaient dans les
podcasts. Non, je voudrais relever ce point, parce que tout le reste de la presse serait incapable, il serait dans une pensée unique pro-macroniste, tant et si bien qu'on n'a pas vu que monsieur handicapé était terre, que ce serait pour ça, qu'on n'a pas vu un monsieur qui criait Marine Le Pen, raciste ou je ne sais trop quoi. Là, vous êtes dans le délire, excusez-moi, mais je pense que
je sais bien que les notables,
la presse est complètement libre en France et beaucoup de journaux ne se gênent pas pour critiquer Emmanuel Macron. Donc je peux simplement
attendez,
pas.
Monsieur Durand, je suis d'accord avec vous. En général, pendant le quinquennat, mais là, comme c'est la kermesse de l'antifascisme, c'est pas le cas.
Je crois pas du tout.
Ce qu'il faut être du côté du bien.
Il y a deux choses. Si ou c'est la kermesse de l'antifascisme, ou
pendant 15 jours,
c'est une presse qui a été mise au pas. Donc ça n'est pas du tout la même chose. Donc il faut que vous choisissiez simplement entre les deux options, mais ça peut pas être les deux en même temps.
En même temps,
voilà.
Alors est-ce qu'on peut conclure plutôt en venir au fond,
Frédéric Durand. Sur le fond, évidemment, oui, je pense que quand on regarde les votes de conviction, on se rend compte que d'une certaine manière, je pense que c'est Yannick Jadot qui a payé quasiment le plus lourd tribut de voix qui se sont enfuies vers Emmanuel Macron.
Vers Mélenchon.
Vers Mélenchon. Vers
Emmanuel Mélenchon ou Jean-Luc Mélenchon?
Les deux. Je pense que
Jean-Luc
Mélenchon. Donc je pense qu'effectivement, il y a un intérêt vers Jean-Luc Mélenchon, vous avez raison. Il y a un intérêt pour Macron d'aller récupérer cet électorat-là. Ensuite, on sait très bien, il l'a dit, et je pense qu'aujourd'hui, tous les gens raisonnables se disent bien que la seule option véritable, c'est un mix énergétique. Celui qui dit « vous pouvez abandonner le nucléaire aujourd'hui », je pense qu'il n'est pas réaliste.
Alors, il ne l'a pas dit, d'ailleurs.
Non, mais bien sûr, mais parce que je pense que c'est impossible, et je pense qu'à la fois, dire « on renonce totalement et définitivement aux énergies renouvelables », je pense que ce n'est pas réaliste non plus. Donc je pense qu'effectivement, ce mix-là, c'est la seule voie en vérité raisonnable pour notre pays. Et il y a une question d'écologie, il y a une question de souveraineté aussi énergétique qui est posée, ce sont les deux. Donc moi, par exemple, sur ce point-là, je pense que Macron est sur la bonne position. Ce n'est pas sur ça qu'il a insisté. Il a insisté sur planification écologique qui, effectivement, et là, Jean-Luc Mélenchon a parfaitement raison, l'écologie, c'est quelque chose qui se planifie parce que c'est quelque chose qui a des effets sur le long terme. Et donc, il a repris à dessein, effectivement, tant et si bien que la France insoumise va exiger un Premier ministre désormais, puisque ce Premier ministre doit faire de la planification écologique.
Oui. Au bout d'un mot, simplement, ce qui est intéressant, c'est l'architecture gouvernementale. Parce que là, je pense que sur le fond, il y a absolument rien de nouveau dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, sinon qu'effectivement, il fait du copier-coller de M. Jadot et de M. Mélenchon, et qu'il avait eu 5 ans pour le faire, et que là, d'un seul coup, derrière, le pilier de la bonne mère, le rayon vert l'a touché. D'accord, ça, on a bien compris. Bon, c'est pas du tout crédible. Mais en revanche, effectivement, ce qu'il a annoncé est assez étonnant et intéressant. Parce que finalement, on comprend que, comme il n'a pas fait grand-chose pendant 5 ans, il a même été très décrié par les partisans de l'écologie, qu'il veut frapper là-dessus, eh bien, il est obligé de prendre des mesures qui vont être vraiment très impactantes, comme on dit, enfin, des mesures qui vont être spectaculaires. Et pour ça, c'est le Premier ministre va être chargé d'eux, avec deux ministres sur le sujet. Ça, c'est effectivement curieux, parce que finalement, chasser le naturel, il revient au galop, ça redevient de la technocratie, inévitablement, puisqu'avec M. Macron, tout commence et tout finit en technocratie au service du capital.
On en vient à Marine Le Pen, qui avait choisi, elle, la petite bourgade de Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loire, pour rencontrer les Français. Je précise qu'elle y a recueilli 37,2% des voix dimanche dernier. Et la candidate du Rassemblement national a promis, là-bas, de diriger la France comme une mère de famille. On en parle juste après l'avoir écoutée.
Il faut faire du bon sens et je vais diriger le pays en mère de famille, voilà, en mère de famille, voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance, mais en tenant compte, encore une fois, des dizaines de millions de Français qui n'ont pas été la priorité des différents gouvernements dans les dernières années.
Alors, toutes ces prises de parole semblent destinées à rassurer les Français. Est-ce que la posture de la mère de famille, ça peut vraiment rassurer Guillaume Bigot?
Ça paraît assez décalé, sincèrement, par rapport au... Je vais surprendre Frédéric Durand, puisque je ne vais pas être dans le rôle qu'il attend de moi et que le système attend de moi. Parce que dès lors que vous critiquez Emmanuel Macron, vous êtes forcément au pied d'eux. Bon, tout ça est caricatural. Non, sincèrement, je pense qu'il y a effectivement, vous l'avez dit, une volonté de rassurer. De toute façon, il y a deux stratégies. La stratégie de M. Macron, c'est faire un référendum anti-Marine Le Pen. Comme la thématique du fascisme ne fonctionne plus, on passe à l'accusation de... d'écocide, voilà, donc il ne faut pas lutter contre quelqu'un qui va précipiter un écocide, c'est la nouvelle thématique, nouvel élément de langage. Et du côté de Marine Le Pen, il y a bien sûr les 35 heures et McKinsey, le président des riches, etc. Et de l'autre côté, il y a cette volonté de rassurer. Et cette volonté de rassurer, la mère de famille, c'est une thématique qu'on peut relier, vous savez, à agir comme un bon père de famille, c'est ce que dit le code civil qui avait été dicté par Cambacérès et que Napoléon avait fait adopter. Donc il y avait vraiment l'idée... du bon sens. Et ce qui est habile, me semble-t-il, c'est l'idée de faire passer que peut-être qu'on ne considère pas qu'elle aurait suffisamment d'expérience, mais que le bon sens suffirait. Un peu comme Ronald Reagan, vous savez, c'était un acteur de série B, mais Ronald Reagan a arrêté la guerre froide avec ses petites mains. Donc, grosso modo, c'est ça.
Finalement, vous êtes dans le rôle que j'attends, et finalement, c'est habile.
Non, j'essaie de comprendre pourquoi elle dit ça. Parce qu'il me semble que ça paraît assez décalé par rapport à un chef d'État. Si vous voulez, mère de famille, chef d'État, oui. Ça me paraît vraiment des registres.
Moi, je pense qu'effectivement, vous le disiez, Marine Le Pen veut rassurer. Pourquoi veut-elle rassurer? Parce qu'en vérité, le Rassemblement national, sur ce point précis, rêve de cancel culture. Faire oublier, effacer 50 ans de ce qu'a pu être dit dans ce parti, etc. Donc sur ce point-là, il rêverait que tout ça n'ait pas existé. Or, tout ça a existé. Et les Français ont aussi de la mémoire. Donc que Marine Le Pen ne porte pas...
La chambre du Front Populaire a voté le plein pouvoir à Pétain, c'est ça?
Non, Vichy, je parle depuis 50 ans.
Ou M. Doriot était déjà.
Je parle depuis 50 ans, ce qu'a pu dire Jean-Marie Le Pen, etc. Et sur ce point-là, il voudrait faire de la cancel culture. Or, une partie des Français, en tout cas, continue de considérer que ce parti-là est d'extrême droite et qu'il y a un risque pour les libertés publiques. Donc, effectivement, être mère de famille, alors je ne sais pas si c'est bien d'être pour le patriarcat ou pour le matriarcat, moi je trouve. Je comprends, on a parfaitement compris le message qui était derrière. Et lorsqu'elle dit « je ne serai pas la présidente de l'outrance et de l'excès », elle le fait aussi, beaucoup l'ont dit, je pense qu'il y a une part de vrai, là où Zemmour a servi de paratonnerre et où ses excès, vous savez, il a déplacé la fameuse fenêtre d'Overton, c'est-à-dire il a fait rentrer ce qui n'était pas dissible dans le débat public, quitte à nous faire penser que Pétain, qui a massacré des Juifs, en a finalement sauvé. Pétain devient le sauveur des Juifs. Donc, toutes ces choses-là, tous ces excès, Marine Le Pen a vécu ça avec son père, elle l'a revécu là avec Zemmour, elle a bien compris que ça... C'est-à-dire, la France ne sera pas gouvernée par ce type de prise de position.
Petite pause pour les principaux titres de l'actualité avec Elisa Lukavski. Puis après, on parle du débat de mercredi et puis de la situation en Ukraine.
Emmanuel Macron joue la carte écolo pour rassembler. Le président candidat a tenu un meeting hier à Marseille où il a placé l'écologie parmi ses priorités. Il souhaite notamment nommer un premier ministre directement chargé de la planification écologique. Il a également déclaré « la politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas ». Un discours vert qui n'a pas convaincu Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Ni son programme, ni celui de Marine Le Pen ne répondent à l'urgence écologique, a-t-elle déclaré chez nos confrères du JDD. Avant d'ajouter, nous n'appellerons pas à voter pour Macron. Et puis du rugby avec la qualification de Toulouse en quart de finale de Coupe d'Europe. Les Toulousains se sont imposés face aux Irlandais de l'Ulster 30-23. 3 essais au compteur toulousain signés Ramos, Ntamack et Antoine Dupont. En quart, les Toulousains retrouveront le Munster.
Merci beaucoup, Elisa. Alors, on a parlé d'Emmanuel Macron, on a parlé de Marine Le Pen, et les deux vont se parler. Ce sera mercredi, le fameux débat de l'entre-deux-tours. Guillaume Bigot, ça peut vraiment, là, cette fois, changer la donne? On n'a jamais vu que ça avait inversé les tendances jusqu'à présent. Est-ce que là...
Je pense que l'élection s'est un peu fermée, un peu beaucoup fermée, au soir, enfin à 20h43, je crois, lorsque Jean-Luc Mélenchon a fermé à triple tour en répétant la formule 3 fois, pas une seule voix, pas une seule voix, pas une seule voix.
Parce même que si le ton a changé à la France Insoumise, là, quand même.
Alors, il y a une consultation, on n'en a pas les résultats, on en parlait tout à l'heure.
Ce matin à 10h.
C'est pas encore.
Mais d'accord. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée,
C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de fascinant. On se rend compte qu'il y aura une majorité, finalement, pour renverser 40 ans de naufrage politique, économique, à travers construction européenne, plus de globalisation, plus d'immigration, etc. C'est un naufrage pour la France. Ça, tout le monde le comprend. Et je pense qu'il y a une majorité, même s'ils ne sont pas d'accord exactement où il faut passer le curseur, pour rejeter ça. Le problème, c'est que c'est fracturé, on l'a déjà dit hier, c'est fracturé. Il y a d'un côté Mélenchon, de l'autre côté Marine Le Pen, et encore d'un autre côté les abstentionnistes. Tout ça fait quasiment 3 ou 4 Français sur 5 qui sont contre donc, le règne du statu quo. Voilà. Le problème de cette affaire, c'est que comme Jean-Luc Mélenchon a fermé cette porte, quand on regarde de près, vous regardez que 75% du programme de Jean-Luc Mélenchon est compatible avec celui de Marine Le Pen, c'est-à-dire la défiscalisation sur les produits de première nécessité, le soutien du pouvoir d'achat, etc. Enfin, on ne va pas égrener. On peut retrouver ça facilement sur Internet. 75%. Tandis que de l'autre côté, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, il y a 20% de compatibilité. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce débat? Vous me posez la question. Bah, je pense que Marine Le Pen va essayer de s'adresser quand même, va faire basculer cette majorité qui ne lui est pas acquise pour éviter cet effet soit d'abstention massive, soit de référendum contre Marine Le Pen. C'est ça l'enjeu pour elle.
Frédéric Durand.
Non, je crois qu'on connaît la... Alors oui, elle va sans doute faire ça, mais je pense que Macron va aussi donner des gages de ce côté d'une politique plus sociale. Cependant, je pense qu'on a compris la posture qui serait celle, parce que pour moi, c'est beaucoup de questions de posture. Il ne va pas y avoir d'annonce. D'un coup, Macron ne va pas dire ben, la retraite, on ne va plus la faire à 64.
Il y aura 64,
il a dit. Oui, mais enfin, il n'y aura pas d'annonce de ce type-là. Donc, c'est des questions de posture. Dans la posture, on a compris Marine Le Pen, bonne mère de famille, vous le disiez tout à l'heure. Donc, elle va essayer d'être rassurante. Par contre, on sait moins comment va réagir à ça Emmanuel Macron, qui pourrait être piégé par l'arrogance qu'on lui a reconnue. Et là, il pourrait y avoir effectivement une sorte de posture un peu méprisante à l'égard de Marine Le Pen, qui pourrait le desservir. Cependant, jusqu'à dire que tout ça peut faire basculer l'élection, c'est possible quand on est vraiment à 50-50. Voilà. Ou alors qu'il y a une grosse erreur d'un des deux candidats qui se montre absolument pas crédible, qui perd ses nerfs pour une raison ou pour une autre. Là, ça peut effrayer, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, hein, ça peut effrayer effectivement l'électeur en se disant « mais il perd son sang-froid », etc. Mais c'est beaucoup des questions de posture, je pense.
Oui, la question de la posture, ça vraisemblablement
essentielle. Avec une difficulté, avec une difficulté pour elle, c'est que finalement, elle peut jouer le tout pour le tout, puisque en réalité, elle a a priori un retard important, donc jouer le tout pour le tout. Mais jouer le tout pour le tout, c'est tomber dans ce que Frédéric Durand annonce à l'avance, c'est-à-dire risquer de rompre avec l'image lisse et rassurante de la mère de famille. Ça, c'est un point clé. Le deuxième point clé, c'est quand même que, effectivement, elle a essayé de jouer, elle va essayer de jouer sans doute la femme qui essaye de parler aux électeurs par-dessus la tête, disons, des partis, des leaders politiques, des notables, etc., pour établir une connexion. Parce que tout le paradoxe de cette élection est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de voix pour Marine Le Pen, il y a plus de voix pour Emmanuel Macron, que ce soit au premier tour pour l'un pour l'autre ou en report naturel de voix. Mais d'un autre côté, il y a une très grosse majorité qui veut se débarrasser d'Emmanuel Macron.
Avant de se quitter, je voudrais vous faire réagir sur la situation en Ukraine. Alors que Kiev, que Kharkiv et Lviv sont à nouveau sous un déluge de feu, il y a la situation à Mariupol, situation absolument catastrophique. On sait que les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine sont au point mort maintenant depuis plusieurs jours. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, assure que même les négociations pour la paix pourraient s'arrêter à cause de la situation à Mariupol. En clair, il dit « si les soldats russes tuent mes soldats ukrainiens à Mariupol, eh bien j'arrête de négocier ». Très brièvement, Guillaume Bigot, comment lire cette déclaration qui serait terrible?
Ça me paraît très difficile à interpréter. Ça peut vouloir dire une chose et son contraire. Ça peut vouloir dire que les Ukrainiens sont dans la situation de résister au coup de boutoir et à l'attaque qui va sans doute avoir lieu prochainement au Donbass. Et donc, qu'ils n'ont plus intérêt à négocier, en tout cas pas intérêt à négocier maintenant, parce que sur le terrain, la situation leur serait favorable. Mais ça peut aussi être une sorte d'appel au secours, finalement. Donc, c'est très difficile à interpréter.
Frédéric Durand.
Oui, tout à fait. Et puis, je crois que ce serait le plus terrible qui puisse arriver. Si Zelensky dit « on ne négocie plus », il n'y a plus de porte de sortie, par voie de conséquence. Ou bien c'est un discours qui est tenu pour essayer de faire à nouveau sensibiliser la communauté internationale sur ce qu'il est en train de se passer, notamment à Mariupol. Ou alors, il a réellement en tête de ne plus négocier. Mais alors là, ça supposerait qu'il y ait un engagement massif aux côtés de l'Ukraine et une entrée du reste du monde dans la guerre, parce que sinon, on ne voit pas d'issue.
C'est-à-dire que ça vient aussi après l'épisode de la Moskova, enfin, qui n'est pas tout à fait un détail pour l'opinion russe.
Le vaisseau amiral.
Exactement, ouais. Le croiseur russe qui a été probablement coulé par deux missiles ukrainiens. Il y a plusieurs hypothèses, mais les Américains ne le confirment pas. Ils disent que ça peut être aussi une avarie du bateau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, les Ukrainiens s'attendent à des représailles massives. Mais au-delà de ces représailles sur le navire, il y a l'enjeu du Donbass. C'est-à-dire que là, les Russes l'ont annoncé à l'avance. Ils vont le reprendre manu militari, toute la région, pas seulement les républiques, et essayer de donner un dernier coup de boutoir. Parce que là, ce qui se joue est très important, puisque vous avez l'essentiel de l'armée ukrainienne qui est concentrée. Donc s'ils arrivent à détruire l'armée ukrainienne, ce qui, à Dieu ne plaise, s'ils la détruisent, ça veut dire que l'Ukraine sera ensuite comme une tortue sans carapace.
Avec une perspective, cette fameuse date du jour de la victoire, symbole de la chute de l'Allemagne nazie, le 9 mai prochain, pour Vladimir Poutine. Le grand rendez-vous, c'est à 10h sur CNews et Europe 1 avec vous, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, quels sont vos invités aujourd'hui ?
Bonjour à tous, et bien une semaine du second tour, deux invités, tout d'abord Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National, et puis dans la foulée Clément Beaune, secrétaire d'État en charge de l'Europe.
Sur quel thème allez-vous les interroger ?
Évidemment sur le choc des deux projets, des deux visions, des deux France entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec le meeting notamment hier du président candidat. Et puis vous l'avez évoqué également, la question et la guerre en Ukraine. Nous interrogerons à ce sujet Clément Beaune évidemment.
Merci beaucoup Sonia, tout à l'heure 10h donc pour le grand rendez-vous. Merci Frédéric Durand d'être venu dans la matinale week-end. Guillaume Bigot, merci à vous, vous restez avec merci. Nous pour la suite de cette matinale. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral avec Frédéric Taddeï.
Merci Isabelle Moreau, bon dimanche à vous. Dans un instant, c'est arrivé demain, en effet, le programme. Bonjour Frédéric Taddeï.
Bonjour Thierry Dagiral. Mon premier invité, c'est l'historien Maxime Michelet. Il va nous raconter comment a été inventée en France la présidence de la République. Vous voyez, c'est un sujet d'actualité. Et puis avec Maxence Cordier, on va parler des énergies. C'est devenu et c'est en train de devenir de plus en plus un problème capital en Europe. Et l'on terminera l'émission avec Marianne Chaillan. Elle a disséqué les morales de tous les dessins animés de Walt Disney. Vous savez, on se demande toujours, mais nos enfants, quand ils vont voir un film de Disney, qu'est-ce qu'ils en retiennent ? Eh bien, vous allez avoir la réponse.
À tout de suite, Frédéric. À suivre le journal de 9h. Nous serons à Kiev, à nouveau touché par les bombardements. Et puis la politique à 7 jours du deuxième tour. Et le foot avant le classico PSG-OM ce soir. Ne quittez pas, on revient.